Je suis Olivia Sarton, je suis directrice juridique de l'association Juristes pour l'enfance. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un autre regard sur la thématique de l'infertilité et de l'assistance médicale à la procréation. Mais je vais vous parler en tant que juriste, puisque moi, je ne suis que juriste et donc je ne parle pas d'un point de vue médical. Je ne parle pas non plus d'un point de vue sociologique ou philosophique. Je vais vraiment vous parler du point de vue juridique. Donc, je vais vous faire d'abord une petite introduction, comme tout bon juriste, j'annonce mon plan, une petite introduction. Ensuite, je vais vous parler de l'état du droit objectif aujourd'hui, tel qu'il résulte de la dernière loi de bioéthique de 2021. Je vais vous présenter un peu ce qui est attendu pour la prochaine loi de bioéthique, dont les travaux ont déjà démarré. Et puis ensuite, ensemble, peut-être que je vous inviterai à questionner, à porter un autre regard sur, par rapport au discours qui est tenu aujourd'hui sur cette question délicate de l'infertilité. Parce que c'est une question qui est vraiment délicate, je commence par ça. Parce que c'est vrai que la reproduction, c'est d'abord, ça touche à la pulsion fondamentale de l'humanité, hein, vraiment une pulsion élémentaire. Ça touche au désir d'enfant, ça touche à la sexualité. Et donc, c'est une question qui ne laisse personne indifférent. Or, les chiffres de l'infertilité sont très importants. Vous avez sûrement pu voir passer des extraits dans les médias. Et puis aussi, autour de vous, vous avez peut-être des proches qui sont touchés. Aujourd'hui, les chiffres officiels, c'est que l'infertilité affecterait un couple sur quatre en France. Donc, je reprécise, hein, on parle d'infertilité lorsqu'un couple ne parvient pas à concevoir un enfant après un an de rapport sexuel régulier sans contraception. Et on peut avoir soit une infertilité primaire, c'est-à-dire que le couple ne parvient pas du tout à avoir un enfant, soit une infertilité secondaire, c'est-à-dire qu'il ne parvient pas à avoir un nouvel enfant. Et donc, ça représenterait à peu près 3,3 millions d'hommes et de femmes en France. Ce chiffre de l'infertilité, aujourd'hui, il est quand même pris en compte par les pouvoirs publics parce qu'il aggrave la baisse de la natalité française. Donc là, c'est pareil, je donne quelques chiffres parce que je trouve que les chiffres sont toujours importants. En 1973, on comptait 888 000 naissances. Et aujourd'hui, en 2024, on en a 663 000. Donc vous voyez, en 50 ans, on a perdu, entre guillemets, enfin la France a perdu 220 000 naissances, qui est quand même un chiffre très important. Et alors que le nombre d'enfants par femme était en moyenne de 2 en 2014, en 2024, donc 10 ans plus tard, c'est maintenant 1,62 enfants par femme en France. Et en août, là, pour la première fois en 2025, première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, vous savez que le solde naturel démographique de la France est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de décès que de naissances sur le sol français. Donc ça n'affecte pas la courbe générale de la population à cause des migrations, mais si on enlève l'effet migratoire, on a un solde qui, pour la première fois depuis 1945, est négatif. Donc l'infertilité est expliquée par différents facteurs. Le recul de l'âge au moment des tentatives de conception, l'impact négatif de nos modes de vie avec les perturbateurs endocriniens, les consommations de tabac, de cannabis, les problématiques d'alimentation. Mais à côté de ça, il y a multiples causes d'infertilité. Bon, là, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est le domaine un peu médical. Mais dans 30% des cas, la cause de l'infertilité médicalement est inconnue. Et on voit qu'aujourd'hui, malgré quelques déclarations là, qui ont un peu repris ces derniers jours, des déclarations pour s'engager à lutter contre les facteurs d'infertilité et à sensibiliser notamment les plus jeunes sur l'âge idéal pour la conception qui se situe entre 20 et 25 ans, ou 25-30, voilà, c'est vraiment les âges idéal. Moi, j'avais un médecin qui m'a dit l'âge idéal, c'est vraiment 20 ans. Bon, ok, mais ça fait une toute petite fenêtre quand même. Donc, en dehors de ce discours de sensibilisation que les pouvoirs publics expliquent qu'ils vont administrer un peu aux jeunes, sinon, la seule réponse mainstream aujourd'hui, c'est l'assistance médicale à la procréation. Et en réalité, c'est ce que les pouvoirs publics et les médecins offrent de manière générale. Donc aujourd'hui, on estime qu'environ 4% des enfants sont conçus par assistance médicale à la procréation. Voilà, donc on peut se dire, est-ce que ça vaut encore la peine de prendre la parole sur ce sujet, puisque de toutes les manières, le processus est déjà bien avancé, son accélération a l'air inéluctable. Donc, est-ce qu'on peut encore dire quelque chose sur l'infertilité aujourd'hui en France? Alors, oui, nous, notre association, on pense qu'on peut dire encore quelque chose. Alors, vous venez de prier dans la chapelle, donc je vais citer Benoît XVI, qui écrivait dans son encyclique « Spes Salvi », Aucun homme n'est une monade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une l'autre au moyen de multiples interactions. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie. En ce que je pense, je dis, je fais, je réalise, et vice-versa. Ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien. Si j'ai pris cette citation, c'est parce que ça va à rebours de l'idée qui est promue par notre société que chacun fait bien ce qu'il veut et qu'on n'a pas à se mêler de ce qui touche les autres. Et non, cette idée n'est pas juste. En fait, le bien commun nous concerne tous. C'est la responsabilité de tous et chacun. Et on voit bien que parfois, on juge très sévèrement les époques antérieures, y compris ceux qui s'étaient tus ou qui n'avaient pas simplement agi. Et donc, voilà, le bien commun, c'est notre affaire à tous. Alors, on ne doit pas agir seulement parce qu'on aurait peur du jugement futur des générations à venir, mais on doit vraiment se poser la question parce que ça nous concerne tous et que chacun doit prendre en compte ses enjeux, au moins se questionner dans sa vie professionnelle et se dire qu'est-ce que je compte faire vis-à-vis de cette question, et également dans sa vie personnelle, puisque vous serez quand même tous plus ou moins concernés par la question, soit parce qu'il y a des amis qui viendront vous interroger, soit malheureusement parce que vous pourrez aussi être concernés par cette problématique de l'infertilité. J'inscris quand même cette question dans un espèce de tableau plus global, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir un tableau plus global de notre société qui est quand même marquée à la fois par un modèle de développement économique où tout est axé sur la consommation. Vous savez que si on s'arrête de consommer, notre modèle économique s'effondre. Donc on est vraiment dans une course en avant pour toujours consommer, pour alimenter notre système économique. Et par ailleurs, un système qui, au niveau du droit, est passé d'un droit qui se voulait objectif général à une revendication de droit subjectif qui est très axée sur un angle victimaire. C'est-à-dire la figure victimaire est très importante aujourd'hui dans l'élaboration du droit. Une figure victimaire, c'est une personne qui n'a pas ce qu'elle désire et à laquelle on doit donner ce qu'elle désire. C'est comme ça aujourd'hui que se construit beaucoup le droit en France. Alors ce que ça donne dans le domaine de la bioéthique, quand on conjugue les deux, eh bien, c'est qu'on a des désirs individuels qui vont devenir des droits grâce au développement de la technoscience qui est alimentée par des intérêts économiques, par notre néolibéralisme, parce que vraiment aujourd'hui, ce que j'appelle moi la technoscience est vue comme l'axe de développement futur de notre économie. C'est-à-dire que comme on a consommé quand même à peu près tout ce qu'on pouvait consommer sur la planète, qu'est-ce qu'il nous reste à consommer ? C'est de l'humain. En plus, c'est bien parce que l'humain, il se renouvelle quand même, contrairement à la planète où on finit par assécher. Enfin, jusqu'à maintenant, il se renouvelait, mais là, il a l'air de moins se renouveler. Et donc, il y a vraiment eu, en 2009, il y a eu un plan de l'OCDE, un plan d'action qui disait que le vivant, c'était une ressource renouvelable et donc ça pourrait être la source d'une nouvelle économie sans limite. C'était marqué noir sur blanc dans le plan de l'OCDE. Et donc, ça entraîne beaucoup de conséquences sur notre société. Parce que ça entraîne, au niveau de la médecine, une rupture dans la manière d'envisager la relation au corps. On passe d'une relation médicale qui était une relation de soins à une relation de prestation de service. La médecine est vue maintenant comme une prestation de service, c'est-à-dire que les acteurs médicaux sont envisagés souvent comme des acteurs économiques de premier plan. Donc il va y avoir beaucoup d'investissements fait par exemple dans des cliniques de PMA, dans des agences de vente de gamètes, parce que ce sont des acteurs économiques de premier plan. Et à l'inverse, du coup, les patients voient les médecins comme des prestataires de services et donc les réquisitionnent pour leur demander les services auxquels ils estiment avoir droit. Et donc chacun est en droit de réclamer la prestation attendue. Et dans les domaines de la médecine en général, mais pas que dans le domaine de la procréation artificielle, par exemple dans le domaine du questionnement de genre, ça pousse parfois, enfin, ou ça entraîne un désarroi chez un nombre important de médecins parce qu'ils sont vraiment vus que comme des prestataires de services. Ce service est disponible, j'y ai droit, vous devez me le donner, vous devez me l'accorder, et vous n'avez plus la vocation du médecin de même poser un diagnostic et de poser un conseil, et de donner un conseil. Voilà, alors tout ça, c'est quand même à l'opposé de l'anthropologie chrétienne, qui, pour reprendre l'expression d'une philosophe qui s'appelle Bérénice Levé, c'est une anthropologie de la finitude. Là, on est vraiment à l'opposé, parce que justement, on veut mettre un terme à cette finitude de l'être humain. Voilà, c'était mon introduction un peu longue. Et maintenant, je vais vous passer à l'exposé du droit objectif en France au sujet de la procréation artificielle. Alors, la procréation artificielle, la première loi qui est venue encadrer les actes de procréation artificielle, c'est la loi de bioéthique de 1994 qui avait posé comme condition d'accès l'infertilité pathologique médicalement diagnostiquée d'un couple homme-femme ou alors la nécessité d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Donc c'était assez circonscrit. Ensuite, les lois de bioéthique, elles sont révisées à échéance régulière, donc il y a eu des révisions, et donc la dernière, c'est la loi du 2 août 2021. Alors qu'est-ce qu'elle a changé ? Elle a introduit un changement majeur dans l'accès à la procréation médicalement assistée, puisqu'elle a d'une part supprimé le critère de l'indication médicale. Donc aujourd'hui, pour accéder à la procréation médicalement assistée, il ne faut plus de critères médical, on n'a plus besoin de constater une infertilité ou alors on n'a plus besoin d'éviter la transmission d'une maladie grave. Un couple homme-femme peut se présenter en indiquant que, par exemple, il n'a pas de relation sexuelle, il n'a pas envie d'avoir de relation sexuelle et donc il veut quand même un enfant et donc il passe par l'accès à la procréation médicalement assistée. Ça ne peut pas être une cause de refus, par exemple. Et puis, on a ouvert aussi, en dehors des couples hommes-femmes, la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de femmes. Donc, cette procréation médicalement assistée, elle peut être pratiquée soit en utilisant les gamètes des demandeurs, soit en utilisant des gamètes de donneurs. Jusqu'en 2021, c'était seulement les gamètes d'un donneur, et maintenant, ça peut être les gamètes de deux. Donc, on peut avoir un embryon qui est conçu pour même un couple avec des gamètes sans lien génétique avec ce couple. Alors, pour ceux qui ne sont pas médecins, hein, je précise que la procréation médicalement assistée, elle peut être réalisée soit par insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on introduit directement dans le corps de la femme, dans l'utérus, le jour de l'ovulation, des spermatozoïdes qui ont été préalablement recueillis soit auprès du conjoint, soit auprès d'un donneur. Mais c'est la technique la moins utilisée. La technique la plus utilisée, c'est la fécondation in vitro, qui est donc réalisée en laboratoire. On recueille préalablement des ovocytes dans le corps de la femme. Ensuite, on les féconde dans une boîte de culture. Et puis, on fait se développer l'embryon. Et ensuite, on le réimplante dans le corps de la femme. Je précise un point qui est important, parce que ça avait donné lieu à des débats dans la loi de 2021, malheureusement, qui n'ont pas été écoutés. Et j'espère que ça sera l'occasion, dans la prochaine loi de bioéthique, d'en rediscuter. Dans l'utilisation de cette technique de fécondation in vitro, les médecins recourent à la congélation des embryons. C'est-à-dire que le prélèvement des ovocytes dans le corps de la femme est une procédure lourde, invasive, qui nécessite une stimulation ovarienne, puisque normalement la femme ne produit chaque mois qu'un seul ovocyte. Et là, pour le prélèvement, on va lui injecter des produits nécessaires pour lui faire produire plusieurs ovocytes en même temps, en général une dizaine, pour pouvoir les recueillir, parce que le prélèvement est là aussi une procédure assez lourde. Et donc, pour éviter ces contraintes à la femme, on fait un seul prélèvement et on fécondait tous les embryons et ensuite on les congelait. Enfin, et ensuite on les congèle parce que c'est toujours d'actualité. Et donc, en 1994, c'était la technique qui était disponible. Mais depuis, les techniques se sont améliorées et aujourd'hui, on sait ce qui s'appelle vitrifier les ovocytes, c'est-à-dire qu'on peut congeler directement les ovocytes en les conservant dans de l'azote à moins 196. Et ce sont des techniques qui sont très bonnes, qui permettent de ne pas léser les ovocytes. Et une fois qu'elles sont vitrifiées, elles gardent leur capacité fécondante pendant des années. Donc ensuite, on peut, quand on en aura besoin, les décongeler. Alors nous, pour la loi de bioéthique de 2021, on avait demandé à ce qu'il soit mis un terme à la possibilité de fabriquer des embryons surnuméraires pour privilégier la technique de vitrification des ovocytes, parce que cette congélation des embryons entraîne des questionnements éthiques majeurs. D'abord, elle place un grand nombre de personnes qui ont recours à la PMA devant un choix cornélien, c'est-à-dire qu'une fois que leur désir d'enfant est assouvi, qu'elles ont eu un, deux, trois enfants qu'elles souhaitaient, quatre peut-être, eh bien, il leur reste toujours un nombre d'embryons, enfin, il leur reste souvent des embryons au congélateur, entre guillemets. Et moi, j'ai rencontré plusieurs fois des femmes, dont je me souviens d'une qui m'avait marquée, parce qu'elle faisait une dépression nerveuse depuis plusieurs années, elle était traitée par un médecin, mais ça, voilà, parce qu'elle ne savait pas quoi faire des embryons. Et c'est-à-dire qu'elle se disait, bah, ce sont mes enfants, en fin de compte, puisqu'il y en avait 10, elle a eu 3 enfants vivants, On a choisi, alors je ne sais pas, peut-être on en avait implanté 5. Ça a donné 3 enfants vivants, mais les 5 qui restent, potentiellement, c'est aussi mes enfants. Donc je ne peux pas les détruire. Et je ne veux pas les donner non plus à quelqu'un d'autre, ce sont mes enfants. Mais je ne peux pas non plus avoir d'autres enfants. Et donc, elle était vraiment en dépression, parce qu'elle ne savait pas comment sortir de cette issue. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'issue. Donc ça, c'est la première chose, c'est pour les gens qui sont concernés. Voilà, toutes ces options les laissent dans la détresse, puisque ce qui leur est proposé, c'est soit on les détruit, soit on les donne à la science, mais ça veut dire qu'on les détruit, soit on les donne à un autre couple, mais en réalité, c'est très rare que des couples acceptent d'avoir un embryon qui soit pas conçu avec leur propre gamète. Ou avec les gamètes d'un donneur, ils préfèrent refaire un embryon que recourir à un embryon qui est déjà là. Donc la fabrication d'embryons surnuméraires a été maintenue par la loi de bioéthique, alors sans doute pour deux raisons. La première raison, c'est que aujourd'hui en France, il est interdit de fabriquer des embryons pour la recherche. Or, les scientifiques veulent des embryons pour la recherche, donc le seul moyen d'en avoir, c'est d'utiliser ceux qui ont été conçus par procréation médicalement assistée et qui n'ont pas été implantés. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que la création d'embryons en surnombre permet aussi un tri des embryons, puisqu'aujourd'hui, les médecins sélectionnent ceux qui semblent... Enfin, on a le droit à un certain nombre de diagnostics qui vont sans doute être étendus dans le cadre de la prochaine loi de bioéthique, des diagnostics dits pré-implantatoires, et on sélectionne les embryons qui ne semblent pas porteurs de telle et telle maladie génétique ou chromosomique. Et maintenant, on peut même utiliser dans des laboratoires, maintenant on utilise même des outils d'intelligence artificielle pour sélectionner les embryons. Et cette sélection, en plus, sous la pression du marché, pourrait sans doute aller en s'aggravant, parce que par exemple, si aux États-Unis, les sélections qui sont proposées des embryons, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, les laboratoires prétendent aux futurs parents qu'on peut sélectionner selon le sexe, selon la taille future attendue à l'âge adulte, selon le QI, etc., etc., l'évaluation du risque de développer des maladies cardiaques. Vous voyez, c'est quand même une forme d'eugénisme libéral où on pousse les gens à attendre un enfant parfait. Alors, donc, la loi de 2021, en dehors de ça, elle a aussi ouvert la possibilité de recourir à une autoconservation ovocytaire, c'est-à-dire la possibilité pour chaque femme, enfin, avec des conditions d'âge, sans indication médicale, de faire vitrifier ses ovocytes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de plan pour lutter contre l'infertilité, puisqu'aujourd'hui, au lieu d'inciter les jeunes à avoir des enfants tôt quand c'est possible, on leur dit « c'est pas grave, faites congeler vos gamètes, et puis le jour venu, à 40 ans, quand vous voudrez avoir un enfant, on les décongélera et vous pourrez avoir un enfant ». Et depuis l'entrée en vigueur de la loi, eh bien, il y a environ 15 000 demandes qui sont formées par an. Donc le seuil d'âge minimal, c'est 29 ans, donc il y a 3% des demandes qui émanent de femmes âgées de 29 ans, 39% de femmes âgées de 30 à 34 et 59% de femmes âgées de 35 à 37, qui est le seuil d'âge maximal. Voilà, autre précision qui peut vous intéresser, c'est que les parcours de procréation médicalement assistée sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie en France, à hauteur de 6 tentatives d'insémination artificielle et 4 cycles complets de fécondation in vitro. Alors c'est une précision qui est importante parce que d'abord cette prise en charge, elle constitue une exception au droit commun, puisque le droit commun, bah, vous le connaissez tous, hein, quand vous allez chez le médecin, vous avez un reste à charge qui peut être couvert par une mutuelle ou pas, et qui est une exception aussi par rapport aux critères d'efficience, c'est-à-dire que normalement l'assurance maladie, elle rembourse ce qui est efficient, c'est-à-dire quand le rapport entre le résultat attendu et les moyens mis est correct. Or là, c'est vrai que selon l'Agence de la biomédecine, après une FIV, la médiane de réussite serait d'environ 19%. Donc, on ne peut pas dire que ça soit quand même un taux de réussite exceptionnel. Et l'autre défaut de cette prise en charge à 100% avec ce nombre de tentatives, c'est qu'en fait, ça pousse les couples, enfin, ou les demandeurs, à aller jusqu'au bout des tentatives. C'est-à-dire que comme ils veulent avoir un enfant, ils se disent « on veut avoir tout fait pour ne pas avoir de regrets ». Donc, ils vont utiliser toutes les tentatives, parce que de toute manière, ça ne leur coûte rien. Donc, il n'y a pas de barrière liée à l'argent. Et alors qu'on sait que, pour beaucoup de couples, en général, ça épuise leur couple. Ça met à mal leur santé physique et psychologique. Et puis, ça ne prédit pas du tout le succès. Il y a même le Comité national d'éthique qui l'a reconnu dans son rapport d'avril 2005. Les parcours d'AMP sont éprouvants pour les femmes et les couples. Les échecs fréquents peuvent être difficiles à vivre. Les médecins évoquent des conséquences sur la vie sexuelle et relationnelle des couples, des tensions, des blessures narcissiques. Donc voilà, donc on a une prise en charge à 100% qui, quand elle est présentée, est présentée comme étant égalitaire, permettant à des gens de réaliser leur désir d'enfant, et en réalité, c'est peut-être pas si bon que ça pour eux. Voilà. Alors, maintenant, que pourrait modifier la prochaine loi de bioéthique? Là, je vous ai fait l'état du droit. Qu'est-ce que ça pourrait modifier? Donc, la précédente, donc je vous ai dit 2 août 2021, le cycle de révision, c'est 5 à 7 ans. Donc là, la prochaine loi de bioéthique, les états généraux de la bioéthique, qui sont une étape indispensable, obligatoire, avant les débats parlementaires, ont été démarrés. Il y a les premières commissions parlementaires qui ont commencé leurs auditions. Donc là, ça y est, on est dans le cycle, on commence le cycle de révision. On aura des débats parlementaires peut-être fin 2026 ou en 2027. Bon, en tout cas, ça arrive. Et donc, en matière de bioéthique, la méthode qui est adoptée, c'est la méthode des petits pas et du cliquet. C'est-à-dire que lors des débats parlementaires, à chaque fois, on franchit une nouvelle étape et puis on demande quelque chose d'autre qui va être refusé, mais qui va donner lieu à beaucoup de débats. Pendant l'intervalle de la loi, il va y avoir beaucoup d'offensives médiatiques pour expliquer que cette mesure n'a pas été adoptée dans la précédente loi de bioéthique. Il y a beaucoup de victimes qui en souffrent. Et donc, comme ça, pour la prochaine loi de bioéthique, ça passe. Donc là, on sait déjà à peu près, hein, il n'y a pas trop de suspense, sur notamment ce qui va être débattu concernant l'assistance médicale à la procréation. On aura d'abord la PMA post-mortem. Alors, la PMA post-mortem, c'est quoi? C'est lié à la conservation des embryons, à la congélation des embryons, mais aussi à la congélation des gamètes. C'est-à-dire qu'en France, quand un couple commence une procédure d'assistance médicale à la procréation, il faut que les deux soient d'accord. Donc voilà. Si un des deux retire son consentement en cours de route, ben, il peut plus, la procédure doit s'arrêter. Mais il arrive, et assez fréquemment, que la procédure soit avancée, c'est-à-dire que des gamètes aient été conservés et même des embryons aient été conçus et congelés, et qu'un des deux membres du couple meurt. Donc soit l'homme, soit la deuxième femme quand c'est un couple de femmes. La femme survivante restante demande l'implantation des embryons déjà conçus. C'est interdit en France. Donc ça a été, alors que c'est autorisé dans plusieurs pays comme l'Espagne. Donc ça a fait l'objet de plusieurs recours en France. En 2024, le Conseil d'État a réaffirmé qu'en cas de décès d'un membre du couple, eh bien, ce qu'on appelle le projet parental disparaît et qu'on ne peut pas procéder à l'insémination artificielle ou à une fécondation in vitro ou en transfert des embryons déjà conçus. Et donc, on arrive à une situation absurde. Vous avez par exemple une femme veuve qui a des embryons au congélateur, excusez-moi l'expression un peu triviale, mais c'est quand même ça, qui ont été conçus avec son mari, enfin, avec les gamètes de son mari qui est décédé entre-temps. Elle demande à ce que ces embryons soient implantés, on refuse. On lui dit qu'elle peut les donner pour qu'un autre couple ou une femme seule ou un couple de femmes puisse se voir implanter ces embryons et qu'elle pourra recommencer une procédure de PMA si elle veut avec les gamètes d'un tiers donneur. Donc voilà, donc la France s'est prononcée plusieurs fois. La CEDH a été saisie également et elle a jugé en 2023 que les autorités françaises avaient ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu, mais quand même en demandant à la France de peut-être se poser la question de revoir la cohérence de sa loi. Et là, il y a un nouveau litige qui est en cours devant la CEDH, donc vraiment avec la situation que je vous ai décrite, des embryons qui ont été conçus in vitro au profit d'un couple, l'homme décède, la femme demande à ce que ces embryons soient implantés, c'est refusé. Elle demande à ce que les embryons soient transférés en Espagne pour qu'elle puisse bénéficier d'un transfert en Espagne, c'est refusé. Et on lui dit, vous pouvez les donner à un autre couple et vous recommencez un parcours de PMA avec les gamètes d'un tiers donneur. Vous les donnez à un autre couple, vous les donnez à une femme seule, comme elle. Voilà. Donc, voilà, on ne sait pas quand. La CEDH devrait se prononcer dans les mois qui arrivent. Et donc, c'est une question qui va revenir dans les débats de la prochaine loi de bioéthique. Alors, comme je vous l'ai exposé là avec les embryons conçus, on pourrait se dire bah, le mieux, ça serait quand même d'accéder à la demande de la femme, de la veuve. Ces embryons, ils ont été conçus avec ses gamètes, celles de son mari. C'est quand même logique d'accéder à sa demande. Mais en réalité, si on répond à cette demande, en fait, on ouvre la porte à d'autres demandes, notamment celle d'un veuf, par exemple. Parce que la situation pourrait être celle de la femme qui décède et l'homme qui se retrouve veuf. Et le cas s'est présenté au Royaume-Uni, où il y avait un homme qui avait donc des embryons qui avaient été conçus avec sa femme qui est décédée. Et il a demandé à pouvoir bénéficier, de recourir à une gestation pour autrui pour qu'une mère porteuse mette au monde, porte et mette au monde les embryons qui avaient été conçus avec sa présente femme au nom du droit à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Et il se disait très croyant et il disait que donc il ne pouvait pas détruire les embryons, que c'était contraire à ses convictions religieuses. Et donc il a obtenu gain de cause. Et c'est vrai qu'en soi, dans le droit français, la gestation pour autrui est aujourd'hui interdite, mais j'en parlerai après. Mais en soi, on ne voit pas pourquoi, au nom de l'égalité, on accorderait à une veuve de pouvoir, entre guillemets, utiliser les embryons qu'elle a et pas un veuf. Donc en fait, je vous donne aussi ce petit exemple pour vous montrer que ce qui est compliqué dans les lois de bioéthique, c'est que dès qu'on ouvre un tiroir, en fait, il y a 150 000 tiroirs derrière et qu'on a toujours plus loin dans ce qui est demandé. Alors après, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il y a parce que sinon, ça sera trop long. Je vais accentuer juste 2-3 points. La marchandisation des gamètes dans les banques de gamètes, parce qu'aujourd'hui, en France, pour avoir des gamètes de donneurs, eh bien, il faut qu'il y ait des donneurs qui donnent leurs gamètes. Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas, peu. Parce que les gens quand même réfléchissent et se disent que bah, ça va quand même être un enfant issu d'eux. Et donc, la solution qui est imaginée, c'est de rémunérer en fait, on dit indemniser, mais en réalité, ça correspond à une rémunération, les fournisseurs de gamètes, de manière à, notamment chez les étudiants, créer un peu plus de volontaires. Parce que c'est ce qui se passe dans les pays à l'étranger, où les étudiants désargentés bah, bouclent leur fin de mois en faisant des dons de gamètes. Et donc, on a une association militante qui vient de se créer, là, dans l'objectif d'obtenir cette modification législative. Après, l'autre point peut-être un peu saillant, c'est l'utilisation des gamètes artificiels pour la procréation humaine. Donc ça, c'est assez peu connu, c'est pour ça que je vous le cite. Déjà, dans la précédente loi de bioéthique, il y avait une autorisation qui avait été donnée pour créer des gamètes artificiels, mais sans possibilité de créer des embryons humains. Vous voyez, c'est la technique du petit pas. Donc on dit, on crée des gamètes artificiels, mais vous inquiétez pas, on ne créera jamais d'embryons humains. Puis prochaine loi de bioéthique, on va dire... Ah ben non, ben il faut créer des embryons humains parce qu'il y a une compétition qui est en cours au niveau international. La France, il faut quand même qu'elle tienne son rang au niveau de la science et de la médecine. Et donc, il faut bien qu'on rentre dans la compétition. Et puis sinon, ça veut dire que les gens vont devoir aller à l'étranger. Donc, il n'y aura que les gens riches qui vont pouvoir aller à l'étranger. Donc, c'est une inégalité de traitement. Donc, il faut bien qu'on puisse, nous aussi, utiliser les gamètes artificielles. Alors, comment ça se passe, les gamètes artificielles? Aujourd'hui, ça a été créé que sur des ça a été testé que sur des modèles animaux. Mais il y a vraiment, entre le Japon et les États-Unis, il y a des équipes là, qui sont en compétition pour avoir ce qu'ils appellent cette perspective d'auto-engendrement. Donc, ça, en français, ça s'appelle la gamétogénèse in vitro. Donc, ça consiste à prendre n'importe quelle cellule du corps humain, donc par exemple un de mes cheveux ou une de mes cellules de peau, et la reprogrammer. Donc ça, aujourd'hui, ils savent le faire. La reprogrammer dans ce qui s'appelle des cellules germinales primordiales. Ensuite, on fait maturer ces cellules, on les fait passer par diverses phases, je ne vous fais pas le détail, et on obtient un gamète mâle ou un gamète femelle. Donc ça, ils savent le faire aujourd'hui sur des modèles animaux. Donc ils ont déjà réussi à reproduire des souris comme ça, qui elles-mêmes se sont reproduites. Bon, apparemment, c'est quand même un peu plus compliqué. Ils n'ont jamais réussi aujourd'hui à passer les phases pour obtenir un gamète humain en maturité, mais les équipes de chercheurs disent que c'est imminent, enfin imminent à 10 ans, quoi. Et voilà, il y a eu tout un document que vous pouvez trouver pour les médecins, si ça vous intéresse, sur l'agence de la biomédecine, qui s'appelle donc la gamétogénèse in vitro. Et l'agence de la biomédecine dit que les perspectives sont considérées comme fascinantes, d'abord parce que ça mettrait un terme à l'infertilité, si je peux produire des gamètes comme je veux, quel que soit l'âge même, c'est une victoire sur l'infertilité. Ça permettrait, dans le domaine du questionnement de genre, de parachever, on va dire, cette utopie du changement de sexe, puisque moi, femme, avec une de mes cellules de peau, on pourrait produire un gamète mâle. On pourrait concevoir des enfants à partir de gamètes de deux parents dans un couple d'hommes ou de femmes, puisqu'on pourrait utiliser les gamètes naturels d'un homme et une cellule de peau de l'autre homme pour le reprogrammer en gamète féminin. On pourrait faire même de la reproduction en solo, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul et même individu, on peut créer un gamète mâle et un gamète femelle, et dans un processus qui s'appelle la méiose, bon, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est l'Agence de la biomédecine, je vous redis ce qu'elle m'a dit, eh bien, on peut brasser le matériel génétique et faire en sorte que, à partir des gamètes donc issus d'une seule personne, on non pas un clone, mais une combinaison génétique nouvelle, unique. Et voilà, et puis on pourrait aussi, donc on pourrait avoir un seul parent qui donne lui-même tout seul naissance à des enfants, et puis on pourrait avoir aussi une multiparenté, parce qu'ils arriveraient à recombiner les gamètes de plusieurs personnes pour en avoir au final plus que deux, et donc un enfant pourrait se retrouver avec plein de parents. Le fantasme de tout adolescent qui a déjà envie de virer ses parents quand il en aura 5 ou 6. Voilà, donc vous voyez, là on voit ce qui est en jeu, c'est vraiment un fantasme multiséculaire de l'humanité, quoi, d'arriver à créer lui-même des êtres humains. Ça permettrait aussi de s'affranchir de l'interdépendance des sexes, je reviendrai un peu là-dessus. Et puis surtout, selon le document de l'Agence de la biomédecine, ça serait un marché très prometteur. Donc vous voyez, on reboucle avec le fait qu'il y a toujours de l'économie derrière. Ça permettrait aussi quand même de généraliser l'eugénisme, puisque si ces gamètes qu'on a fabriqués, après on peut trier comme on veut. On pourrait aussi sans doute, donc dans la prochaine loi de bioéthique, on va sans doute aussi beaucoup discuter sur la modification du génome des embryons pour corriger des anomalies. Donc intervenir sur le génome humain, corriger de ce qui ne va pas et que ça soit transmissible à la descendance. Bon, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. Mais dès que des scientifiques ont réussi, ça interviendra forcément dans la loi de bioéthique. Et puis la dernière question dont vous entendez forcément beaucoup parler, c'est la gestation pour autrui. Donc aujourd'hui, elle est interdite en théorie en France. En pratique, l'interdiction française, on voit qu'elle est quand même combattue de multiples manières. D'abord, les médias relaient abondamment des histoires bisounours de GPA réalisées à l'étranger. Quand on a des sociétés commerciales qui viennent démarcher des Français sur le sol français, il n'y a aucune poursuite qui sont engagées par les pouvoirs publics. Et la justice ne se refuse à protéger les droits de l'enfant. Bon, je ne rentre pas dans le détail d'histoires judiciaires qui ont cours actuellement devant les tribunaux, dans lesquelles on a des mères porteuses qui regrettent d'avoir convenu de conventions de gestation pour autrui avec des tiers qui se voient pourtant confisquer la garde de leur enfant au profit de ces tiers, ce qui normalement ne devrait pas être le cas puisque la loi prévoit la nullité des conventions de gestation pour autrui. Or, finalement, le juge les entérine en accordant la garde exclusive aux commanditaires de gestation pour autrui. Donc, la gestation pour autrui, c'est sans doute un sujet qui sera temporairement dans une prochaine loi de bioéthique. Je dis temporairement parce que comme il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent pour protester contre l'atteinte faite aux droits des femmes, notamment l'exploitation des femmes, puisque c'est quand même en majorité des femmes qui sont soit fragiles financièrement, soit fragiles psychiquement, qui acceptent de porter un enfant pour le compte d'un autre. Il y a quand même beaucoup de dangers au niveau de leur santé. Il y a quand même des conséquences psychologiques, psychiques importantes. Donc la gestation pour autrui a été quand même condamnée par le Parlement européen quand on voit qu'il y a quand même un trafic d'êtres humains, mais elle devrait être condamnée tout court. Et donc, les scientifiques cherchent des solutions alternatives. Donc, par exemple, il y a une chercheuse norvégienne qui a proposé qu'on utilise des femmes en état de mort cérébrale. Donc, on les garde, on garde le fonctionnement de leur corps pour avoir... Et puis sinon, on a aussi le développement de l'utérus artificiel qui est toujours recherché. Mais tout ça, ça fait fi de la relation primaire fondamentale qui se noue in vivo pendant la grossesse entre la mère et l'enfant. Et qu'on voit bien toutes les difficultés quand des enfants sont abandonnés ou même dans les cas de gestation pour autrui où on a des enfants devenus adultes qui témoignent comme en France, il y a Olivia Morel, qui témoigne des difficultés psychiques du fait d'avoir eu ce lien qui a été brutalement rompu à la naissance. Voilà, ça, c'était un peu les projections. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord, je voudrais souligner que ce qui est très difficile, et si vous êtes touché par l'infertilité ou si vous avez des proches touchés par l'infertilité, ce qui est très difficile, c'est que l'offre médicale, elle entraîne une intolérance radicale à l'infertilité. C'est-à-dire qu'avant, c'était vécu comme une épreuve, mais aujourd'hui, cette épreuve, elle est encore aggravée par le fait qu'on dise il y a une offre médicale qui pourrait répondre à la difficulté, enfin, à l'infertilité ou à la stérilité que vous rencontrez. Donc, ce qui fait que quand les gens rentrent dans des parcours de PMA qui n'aboutissent pas, leur souffrance est 100 fois pire que s'ils n'avaient pas commencé le parcours. Vous voyez, parce que ça rend vraiment intolérable le fait que la science n'ait pas réussi là où elle fait des fausses promesses, entre guillemets. Alors ça, c'est quand les gens ont voulu faire un parcours de procréation médicalement assistée, mais aussi pour ceux qui refusent, en se disant, par exemple, pour des raisons éthiques, non, je ne veux pas me lancer dans un parcours de procréation médicalement assistée, ou comme vous devez peut-être avoir entendu parler de Blanche Treib, qui avait refusé de ne... Enfin, qui avait dit au médecin qu'elle ne voulait pas, qu'il lui disait, mais vous avez les moyens, allez réaliser une gestation pour autrui aux États-Unis, puis vous reviendrez, vous aurez un enfant. Elle avait refusé, et du coup, quand les personnes refusent, toute compassion leur est refusée. Parce qu'on leur dit, bah, si tu ne veux pas avoir d'enfant, en fait, c'est ta faute, puisqu'on te fait des offres, bon, soit la PMA en France, soit la gestation pour autrui dans un autre pays, et tu ne le prends pas. Donc finalement, ne viens pas te plaindre, hein, puisque si tu n'as pas d'enfant, c'est toi qui le choisis. Donc, ça, c'est très impactant pour les gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils ont vraiment très peu, voire pas du tout de compassion de la part du reste de la société. Et ça aussi, le fait qu'il y ait cette offre médicale aussi, ça fait, je le disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de recherche sur les causes de l'infertilité. En fait, depuis qu'on a eu la FIV, et notamment une FIV qui s'appelle la FIV-ICSI, qui consiste à injecter directement le spermatozoïde dans l'ovocyte de la femme et qui, c'est vrai, a fait que les PMA ont quand même, enfin les FIV ont quand même plus abouti, eh bien on a arrêté toutes les recherches, notamment sur l'infertilité masculine. Et donc tout est tourné vers la PMA. On ne cherche pas aussi les causes autres qui font que les gens ne pourraient pas avoir d'enfants. Il y a un médecin qui est endocrino et gynéco qui postule le fait, elle est un peu spécialisée dans les violences sexuelles, et elle dit qu'il y a un lien entre les antécédents de violences sexuelles et l'endométriose. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a de l'endométriose qu'il y a des violences sexuelles, et inversement, mais elle dit qu'elle a souvent remarqué qu'elle avait des patientes qui souffraient d'endométriose, et qui en réalité, ou même des hommes qui étaient infertiles, et en réalité qui avaient subi des violences sexuelles, et que quand on traitait d'abord ce sujet des violences sexuelles, eh bien, parfois, ces personnes arrivaient à concevoir un enfant ensuite naturellement. Et puis aussi, on ne fait pas de recherche sur toutes les propositions alternatives qui consistent d'abord, ou par exemple, aux États-Unis, on a des études qui montrent qu'un simple accompagnement des gens, donc un accompagnement proche, réduit l'anxiété, la dépression, le stress et permet à certaines personnes de concevoir. Pas à toutes, évidemment, mais ça dépend de la cause de l'infertilité. Vous avez des mouvements comme la naprotechnologie qui sont très ignorés en France et pas du tout soutenus, alors que la PMA, je vous dis, c'est 100%. La naprotechnologie, c'est rien du tout. Donc, c'est une abréviation de Naturel Procréative Technology. Et donc, c'est une aide médicale pour favoriser une conception naturelle avec un accompagnement personnalisé. Et on a un taux de succès qui est bien supérieur à celui de la PMA, puisque c'est en moyenne 35%, alors que la PMA, c'est autour de 17%. Donc voilà, et ces moyens-là ne sont pas du tout soutenus en France. Et donc l'intérêt des couples, c'est d'abord d'être orienté vers ce type d'aide et pas vers un parcours de PMA. Mais pour ceux qui ont une infertilité, soit inexpliquée, ou alors expliquée, mais qui ne peut pas être résolue, avant, l'alternative, ça pouvait être l'adoption. Aujourd'hui, il n'y a plus d'adoption, quasiment plus d'adoption en France, possible, parce qu'en France, on a un peu moins de 3000 enfants adoptables en France par an, à côté de toutes les demandes de PMA qui sont plusieurs dizaines de milliers. Donc, moins de 3000 enfants. Et sur ces 3000 enfants, vous en avez deux tiers qui sont des enfants avec des maladies ou des handicaps lourds, ou alors des enfants, entre guillemets, âgés, ou qui sont en fratrie et qui sont devenus adoptables au fil du temps, mais qui ne sont pas des bébés. Et les gens veulent adopter des bébés. Mais voilà, il n'y a pas de bébé à adopter. Et à l'étranger, vous savez que l'adoption, c'est quasiment la même chose. Il n'y a quasiment plus de possibilité d'adopter d'enfants à l'étranger. Donc pour les gens qui sont touchés par cette infertilité, ils n'ont pas ce recours, entre guillemets, qui existait avant avec l'adoption. Et donc, voilà, on peut se poser la question « que faire ?» Et moi, je postule qu'il faut arriver à changer de paradigme, mais je sais que c'est une option qui est étroite et difficile pour envisager de revoir différemment nos relations les uns et les autres. D'abord, ce que je dénonce dans la procréation artificielle, et vous voyez dans ce que je vous ai décrit par exemple sur les gamètes artificielles, c'est qu'on nie ce qui constitue notre humanité. Ce qui constitue notre humanité, c'est qu'on est dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour avoir un enfant, il fallait avoir un homme et une femme qui, globalement, s'entendent. Hein, je ne parle pas des cas pathologiques de violence, etc., mais qui s'entendent pour concevoir un enfant. Donc finalement, on est dépendants les uns des autres, et quand on est dépendant, on est fragile, et quand on est fragile, on se traite mieux les uns les autres. Si un homme est dépendant d'une femme pour avoir un enfant, normalement, il devrait mieux la traiter que s'il peut s'en passer. Désolé, je vous regarde, vous êtes un homme, mais, ou inversement. Vous voyez, la dépendance nous rend vulnérables, et la vulnérabilité, c'est ce qui fait qu'on a des rapports plus apaisés les uns aux autres. Pour vous donner un exemple, c'est dans le désert, vous savez qu'il y a la tradition d'hospitalité des Bédouins, qui fait que quand vous rentrez dans le désert, dans les gens qui se cheminent nomades se rencontrent, il y a une tradition d'hospitalité, on n'agresse pas celui qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas s'il est plus fort que nous ou moins fort, et donc on a tout intérêt à avoir ce pacte. Voilà, on est dépendants l'un de l'autre, donc on doit être en paix les uns avec les autres. Ben, c'est la même chose dans nos rapports hommes-femmes. Et aujourd'hui, on est en train de perdre ça. Et si on n'est plus dépendants les uns des autres, on perd notre vulnérabilité et on risque de rentrer, je pense, à mon avis, dans un cycle de violence qu'on voit déjà dans l'affrontement des sexes aujourd'hui entre les hommes et les femmes, et je pense, et des femmes et des hommes, et je pense qu'il va aller en s'aggravant. Voilà. Donc aujourd'hui, si on prend la parole, c'est parce que, certes, il y a du droit objectif qui existe, et vous voyez qu'il est quand même assez conséquent, mais ce n'est pas parce qu'il existe qu'on n'a pas le droit de le dénoncer. On a quand même encore aujourd'hui une liberté de parole et on a le droit de le dénoncer et de proposer autre chose. On a le droit de proposer d'autres domaines et il faut parler parce que c'est vrai que, comme le dit Burke, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Voilà, donc pour les médecins, c'est vrai que c'est difficile. Moi, je vois bien dans les échanges que j'ai avec les médecins, ce qui me frappe, c'est qu'à un moment, pour... se réaliser dans leur... Certains arrêtent de réfléchir. C'est-à-dire qu'ils s'interdisent de réfléchir aux enjeux, à ce qui est derrière ce qu'on leur demande. Ils sont choqués intérieurement. Moi, j'ai déjà eu des témoignages de médecins qui sont choqués intérieurement par les demandes qui leur sont faites, mais ils se bloquent. Ils se disent, non, je ne peux pas y réfléchir parce que sinon, on va me dire discrimination ou alors arrêt de ta carrière, ou alors etc. Donc, ils se bloquent et ils font ce qu'on leur demande. Donc, c'est vrai que c'est un défi pour vous qui êtes dans la médecine. C'est un vrai défi. Après, ça implique aussi de recevoir déjà, le pendant à cette question de la fertilité, c'est aussi de recevoir les enfants qui naissent comme un don et comme un cadeau. Et aujourd'hui, vous savez aussi qu'il y a une intolérance dans notre société à l'enfant non désiré. L'enfant, il doit être le fruit d'un projet parental. S'il n'y a pas de projet, je vous rappelle que les chiffres de l'avortement d'IVG sont très élevés en France. Chaque année, il représente quasiment, je crois, un quart ou un tiers des naissances. Mais recevoir un enfant comme un cadeau, ça veut dire aussi que la société doit se mobiliser pour entourer concrètement une maman qui attend un enfant qu'elle ne sent pas en capacité d'accueillir. C'est bien de dire que c'est mieux de garder l'enfant, mais si on dit à une femme, c'est bien, ça serait mieux que tu gardes l'enfant, mais qu'au final, on ne lui propose aucune aide, on ne remplit pas notre rôle et on ne remplit pas notre devoir. Et puis, je pense aussi qu'il faut revoir un peu nos rapports familiaux. Quand dans nos familles, on a des personnes autour de nous qui n'ont pas d'enfants, quelle place est-ce qu'on leur laisse auprès des enfants que nous, on a ? Si on regarde sur l'arbre des générations, dans toutes les familles, il y a des générations où il y avait des personnes qui n'avaient pas d'enfants. Mais c'est vrai qu'en général, elles avaient une place beaucoup plus importante qu'aujourd'hui auprès des enfants, de leurs frères et sœurs ou de leurs cousins, cousines. Et on leur accordait vraiment un vrai rôle co-éducatif et on prenait en compte. Et voilà, je pense que c'est quelque chose aussi à retravailler aujourd'hui, comme on est chacun en famille nucléaire, chacun avec ses enfants sous le même toit, et qu'on vit plus du tout en famille élargie, mais il y a plus cet espace pour que ceux qui n'ont pas d'enfants puissent quand même avoir un rôle. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à ce que moi j'appelle un peu les parentalités alternatives qui consistent par le parrainage d'enfants en France ou à l'étranger ou le parrainage de mamans isolées. Il y a une association qui s'appelle Marrainez-vous, où on propose à des personnes de s'occuper d'une mère seule avec ses enfants qui a besoin d'être soutenue dans son rôle éducatif. Il y a des associations qui proposent des parrainages de proximité auprès d'enfants. J'ai regardé par exemple le site de l'association France Parrainage qui disent que 92% des enfants et jeunes parrainés. Donc parrainage, ça veut dire que les adultes s'engagent à prendre l'enfant un week-end sur deux pendant la moitié vacances scolaires, à l'accompagner dans ses devoirs régulièrement au cours de la semaine, etc. Donc c'est un vrai investissement. Eh bien, ils montrent que 92% des enfants et des jeunes se sentent heureux avec leurs parents, que leurs résultats scolaires s'améliorent dans 60% des cas, ils pratiquent de nouvelles activités dans 95% des cas, c'est-à-dire que leurs parents et marraines les emmènent au musée, au cinéma, pratiquer un sport, etc. Et qu'ils voient leur relation avec leurs parents s'améliorer dans 58% des cas. Et ça ne s'arrête pas à l'âge de l'enfance, que moi j'ai été témoin quand même d'une rencontre assez incroyable entre une femme de 25 ans qui avait des parents dysfonctionnels, donc elle avait été placée comme enfant auprès d'une famille d'accueil. Donc ça s'était bien passé avec cette famille d'accueil, mais manifestement, ça l'a laissée quand même dans l'attente d'une relation vraiment avec quelqu'un qui serait son parent. Et moi, quand je l'ai rencontrée, je l'ai fréquentée pendant 2 ans avec une femme qui était en âge d'être sa mère. Je faisais partie d'un même groupe. Et à un moment, tout le monde a déménagé. Et au moment de ce déménagement, cette jeune femme de 25 ans a témoigné que depuis toujours, elle demandait à avoir une mère. Et que 2 ans avant, quand elle était arrivée, elle avait rencontré cette femme qui en avait 50 ou 60. Et une relation s'était tissée. Et elle a fini par lui dire « Est-ce que tu veux être ma mère ?» Elle avait accepté. Et la fille a eu 25 ans. Donc, au sens, elle avait toujours besoin d'avoir une mère, quelqu'un que vous pouvez appeler en pleine nuit pour dire « J'ai mal au ventre, je suis en train de vomir, qu'est-ce que je dois faire ?»« J'ai raté mon train, comment je fais ?» voyez. Et cette femme de 60 ans, qui elle-même n'avait pas eu d'enfant, a accepté à 60 ans de rentrer dans cette relation maternelle avec cette jeune femme qui lui demandait. Voilà, je trouve que c'est des beaux exemples parce que finalement, on voit que c'est pas que le lien de la chair ou le lien juridique. On peut avoir un vrai lien avec des enfants, même si on n'a pas de lien juridique de filiation qui s'établit. Je fais aussi un petit coup de je ne sais pas si je peux dire de publicité, mais en tout cas de sensibilisation, parce que la France va commencer à manquer cruellement de familles d'accueil, ce qu'on appelle les familles d'accueil. Donc aujourd'hui, ça s'appelle les assistants familiaux. C'est-à-dire, en France, il y a à peu près 200 000 enfants qui sont placés parce que leurs parents ne sont pas capables ou ont été déclarés défaillants, en tout cas par la justice, et ils sont placés. Parfois en famille d'accueil, mais comme il y a de moins en moins de familles d'accueil, majoritairement dans des foyers ou même parfois des services hospitaliers et jusqu'à récemment dans des hôtels, mais là, ça commence à être interdit par la loi. Et il y a beaucoup des familles d'accueil qui aujourd'hui restent, qui ont 58 ans, qui vont arriver à l'âge de la retraite et qui vont arrêter d'accueillir des enfants. C'est un travail rémunéré, en fait, d'être famille d'accueil. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, maintenant, faute de place en famille d'accueil, on retrouve la situation, on a des bébés, des petits-enfants, par exemple, qui sont placés en pouponnière surchargée. Et là, il y a des députés qui ont alerté parce qu'on retrouve des syndromes d'hospitalisme. L'hospitalisme, c'est-à-dire, c'est quand on a des enfants qui développent, des tout-petits, hein, des bébés qui développent des troubles de dépression parce qu'en fait, ils n'ont pas les soins maternels dont ils ont besoin, maternels et paternels. Et donc, c'est vrai que c'est un chemin qui est difficile. Mais quand on ne peut pas avoir d'enfants, j'ai déjà lu des témoignages de couples qui disaient bah, « Nous, voilà, on a accepté, on est famille d'accueil. Donc, on reçoit chez nous des enfants qui nous sont confiés pour une durée qu'on ne maîtrise pas. Ils vont peut-être rester 1 an, 3 ans, 18 ans, 21 ans, mais peut-être qu'ils vont partir beaucoup plus vite, avec lequel on va quand même créer des vrais liens, on va devoir s'investir. Mais tant qu'ils ne seront pas adoptables, on ne pourra pas les adopter. Il y en a certains qui deviennent adoptables, donc les familles d'accueil peuvent les adopter. Mais ils ne sont pas tous adoptables. Donc, parfois, on a juste ce lien qui continue, qui est vraiment au service de l'enfant. Voilà, moi, c'est un peu ce que je propose. Donc, j'ai bien conscience que c'est un chemin qui est quand même aride, parce que la souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant biologique, elle est réelle, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Elle est encore majorée par le rejet dont je vous ai parlé de la société. Mais voilà, je pense quand même que c'est un chemin d'avenir quand on voit le nombre de gens en France qui auraient besoin d'être épaulés par des adultes solides, que ce soit des enfants, mais aussi des plus âgés. Et donc, vous, voilà, votre mission, hein, c'est un peu déjà de vous interroger sur ce que vous, vous voulez faire dans votre vie personnelle, ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle. Et puis, vous avez une mission aussi vis-à-vis des autres. C'est d'abord, moi, je vous ai transmis ça. Si vous le recevez, c'est éventuellement de pouvoir le transmettre aux autres parce que on a besoin d'être éclairé. Vous voyez, on a eu le témoignage l'autre jour d'Olivia Morel, donc cette personne, cette jeune femme qui est née de gestation pour autrui et qui témoigne de tous les troubles qu'elle a entraînés. Et il y a un couple qui lui a écrit en disant bah voilà, nous, on allait recourir à la gestation pour autrui, on a entendu votre témoignage, on a renoncé, on va se tourner vers autre chose. Donc les gens, souvent, ne sont pas informés. Un couple qui rentre en parcours de PMA ou une personne qui rentre en parcours de PMA, on lui dit qu'on va congeler les embryons, elle se dit OK, et elle ne se pose pas la question de se dire mais dans 5 ans, quel sera le devenir de ces embryons qui n'auraient pas été utilisés. Et puis, je pense que la mission que vous avez en tant que chrétien, c'est aussi la consolation. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément des situations qu'ils traversent, quels que soient les choix qu'ils aient faits. Et il faut pouvoir accueillir aussi ceux qui traversent ces situations sans les juger, elles, en posant un regard lucide sur les situations, mais en ayant soin de distinguer toujours les faits et les personnes, et en essayant de redonner l'espérance. Et je vais terminer pour boucler par un extrait à nouveau de Spes Salvi de Benoît XVI, qui dit « Notre espérance est toujours essentiellement aussi espérance pour les autres. En tant que chrétien, nous ne devrions jamais nous demander seulement « Comment puis-je me sauver moi-même ?» Nous devrions aussi nous demander que puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour les autres l'étoile de l'espérance. » J'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Quels sont les droits de l'enfant ?
Les droits de l'enfant, normalement, sont prévus par la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 7, qui dit que tout enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Mais malheureusement, c'est interprété en France comme étant les personnes qui ont l'intention d'être ses parents, donc à partir du moment où les parents qui ont ce projet parental ont le projet d'être ses parents, eh bien, c'est ses parents. Voilà, c'est pour ça que dans les cas de gestation pour autrui, quand les Français se rendent à l'étranger et rentrent avec l'enfant qui a été obtenu par gestation pour autrui, on reconnaît la filiation au nom de l'intérêt de l'enfant, en disant que l'intérêt de l'enfant, c'est de connaître et d'être élevé par ceux qui ont eu l'intention d'être ses parents.
Mais est-ce qu'on peut pousser plus sur les droits d'enfant? Parce que ça va être difficile de pousser contre la PMA, mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur les droits des enfants pour essayer de...
Oui, alors c'est ce qu'on fait notamment dans la gestation pour autrui, en disant que les témoignages montrent que l'enfant qui est violemment comme ça arraché à sa mère, qui a une maternité qui est éclatée entre peut-être la donneuse de gamètes, la mère porteuse, sa mère légale, qui subit des troubles psychiques. C'est ce qu'on essaie de faire valoir, notamment les droits de l'enfant. Pour la PMA, par exemple, on essaie de faire valoir le fait que si on se tourne vraiment vers l'enfant en disant que l'intérêt de l'enfant est le premier, eh bien, quand il est né d'une PMA avec tiers donneur, on devrait, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, lui laisser la possibilité d'établir une filiation juridique avec la personne qui a donné les gamètes. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été accepté en France. C'est une proposition qu'on va refaire à l'occasion de la prochaine loi de bioéthique. Là, effectivement, ça serait dans l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, ça serait aussi de ne pas rester en tant qu'embryon congelé, donc... de mettre fin à la congélation des embryons, parce que même cette congélation, même si l'enfant, au final, est transféré et né, on ne sait pas quelles sont les conséquences pour lui d'être congelé pendant 5, 10, 15, 20 ans, parce qu'il n'y a pas de limite à la congélation tant que les parents disent qu'ils continuent leur projet parental.
Une fois que les parents seraient morts tous les deux, ils seront à qui ces embryons ?
Et ben, ces embryons, soit... S'il n'y a pas eu de volonté qui ont été exprimées, je pense qu'ils sont soit détruits, soit donnés à la science, mais à mon avis, plutôt détruits. Parce que normalement, pour qu'ils soient, entre guillemets, donnés à la science, il faut qu'il y ait l'accord des parents.
Et quand on parle du droit de l'enfant, c'est d'un enfant une fois qu'il est né, pas dans l'enfant. À quel moment on considère que c'est un enfant ?
On considère, alors en France, l'enfant n'a une personnalité juridique qu'au moment où il naît. Donc même si la Convention internationale des droits de l'enfant, elle dit que l'enfant doit avoir une protection juridique avant comme après sa naissance. Donc, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par la France, elle reconnaît un droit pour l'enfant, y compris pour l'enfant in utero.
Dès la conception.
Elle fixe pas de, elle fixe pas de, de date, mais elle dit avant comme après la naissance. Mais on n'en tire pas les conséquences en France. Voilà. L'enfant en France, enfin l'embryon conçu, il a une valeur tant qu'il a un projet parental. Et donc, en fonction de ce projet parental, sa valeur ou ses droits varient. Donc, on a des procès, par exemple, parce que des embryons congelés ont été détruits par erreur. Et donc là, on va dire, c'était des enfants, donc les parents ont subi un préjudice, donc ils doivent être indemnisés de leur préjudice. Mais en revanche, ces mêmes embryons, s'ils ont été détruits parce que les parents ont dit « on n'en veut plus », là, il n'y a pas de problématique. Donc, c'est toute l'incohérence du droit.